Épisode 8. Le destin selon les dieux scandinaves. Lorsque Thor et ses pères luttent jusqu'à la fin du monde.
Bonjour, voilà, j'arrive à Vélib et je vais garer mon Vélib à la borne. Ça fait toujours un certain bruit. J'adore le Vélib. D'abord, j'adore le vélo. Et le Vélib permet, ça me donne l'impression de pouvoir m'envoler de n'importe où à n'importe où. Et c'est l'idéal puisque je vais retrouver à nouveau Pierre Brice Stahl pour nous replonger dans les mythes nordiques.
Pierre Brice, nous revoici dans votre bureau pour parler de la destinée, de fin du monde et d'un dieu belliqueux qui joue un rôle dans tout cela, c'est le dieu Thor. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous parler de Thor ?
Il s'agit du fils d'Odin et de Yor, qui est lié à la Terre. Thor est lié à la déesse Sif, et donc il a une fille, Thrudur, ainsi que deux fils, que l'on pourra retrouver plus loin en parlant du Ragnarok, qui sont Magni et Mozi. Or, il a également un char qui est tiré par deux boucs, et on le retrouve assez souvent comme protecteur des dieux. On a un autre aspect de Thor qui est souvent lié aux géants, les géantes en fait. Donc on va même avoir des poèmes du Xe siècle qui vont présenter une liste de l'ensemble des géantes et des géants que Thor aurait tués.
Que symbolise ce marteau qui est l'apanage de Thor ?
Alors il s'agit d'un de ses attributs en fait. À son sujet, il est dit qu'il pourrait frapper n'importe quoi, aussi fort qu'il voudrait, sans que le marteau ne s'abîmât. Qu'il ne manquerait jamais le but contre lequel il lancerait, mais que jamais le marteau ne volerait si loin qu'il ne dût revenir dans sa main. Et aussi que, s'il le voulait, il se ferait si petit qu'il pourrait tenir dans sa blouse. Il y a d'ailleurs tout un mythe qui est lié à ce marteau. Le récit nous explique que Loki avait coupé la chevelure de Sif. Et donc, vous imaginez bien la colère de Thor, qui décide au final de ne pas broyer Loki, si le dernier lui propose effectivement de faire réaliser par des nains une chevelure d'or, pouvant pousser comme des cheveux normaux. Et c'est le premier objet qui est réalisé par ces nains. Ils vont réaliser d'autres objets, comme la lance d'Odin, un bateau pour le dieu Freyr. Ensuite, Loki va mettre sa tête en jeu en disant que les nains ne seront pas capables de produire du trésor d'une meilleure qualité. Mais afin de préserver sa tête, il va un petit peu empêcher le travail, il va se transformer en mouche. Donc on va avoir trois nouveaux objets qui vont être mis en place. Glinbor, c'est le sanglier de Freyr. On a Dropnir, l'anneau d'or d'Odin. Et on a Mjolnir, qui est le marteau de Thor. Et la gêne occasionnée par Loki, qui s'est transformé en mouche, a eu par conséquence que le manche a été trop court. Les dieux après décident quel est l'objet le plus merveilleux, et donc il est décidé que c'est ce marteau, le marteau de Thor, Mjolnir. Loki parvient à préserver sa tête en disant qu'au final, il a mis sa tête en jeu, mais pas son cou. Son cou lui appartient. Donc, voilà.
Ce mythe que vous nous racontez, il est présent dans une chanson de Viking Metal, non ?
Oui, effectivement, Amon Amar, donc un groupe de métal viking, a une chanson qui s'intitule Mjolnir et qui présente la création de ce marteau.
Ah, j'adore, je trouve que c'est une musique extrêmement cathartique. Elle regroupe vraiment tout ce que j'aime dans le métal. J'aime aussi beaucoup le rock, mais je pense qu'une des raisons pour lesquelles j'aime tellement le métal, c'est que c'est une musique plus cathartique que le rock. Ça va plus loin. Hein, on dit toujours que les chanteurs de métal, ils ont la rage. Mais bon, alors vous me direz, mais vous n'avez pas tellement l'air d'avoir la rage, Amélie Nothomb. Mais parfois, dans l'intimité, ça peut arriver. Quand on a besoin de se défouler à fond, rien de tel que le métal. Comment expliquez-vous cette affinité prodigieuse entre la Scandinavie et le métal? Est-ce que c'est en rapport avec les mythologies du passé?
Le viking metal, justement, est issu notamment du heavy metal, entre autres. Et donc, il y a une construction qui s'est faite en utilisant des textes sur à la fois la figure du viking, mais également sur les divinités nordiques, qui est très liée à toute cette idée, cette construction, notamment autour de la masculinité, de la virilité, qui est aussi été liée au Nord. Et on retrouve des discours, au final, qui sont très anciens, sur les théories des climats, comment elles affectent le corps, etc.
C'est ça.
Donc, c'est pour ça qu'on va retrouver, que ce soit dans la jaquette des albums, dans les textes, mais également dans la mise en scène. En fait, dans ces festivals, on va vraiment retrouver sur la scène, que ce soit par des costumes, que ce soit même par des runes qui vont être sur des posters, etc., tout cet univers qui va participer.
Alors, Pierre Brice, cet univers de la virilité nordique, de la force, c'est notamment le propre du dieu Thor. Avez-vous un autre récit à nous présenter avec ce dieu très combatif?
On retrouve un récit qui est également utilisé par Snorri, que l'on va avoir dans un poème, un des poèmes édiques, Ymixvida, où on nous dit justement que les dieux souhaitent obtenir un chaudron afin de pouvoir faire un festin. Et une des divinités, Tyr, dit qu'un tel chaudron existe chez son père Ymir. Ymir va recevoir Thor, et il n'a pas trop le choix. Et le lendemain, après un dîner où Thor mange un ou deux ou trois bœufs bien préparés, ils vont à la mer pour pêcher, afin de se réapprovisionner. Et Thor va utiliser une tête de bœuf comme appât, comme on fait normalement quand on va à la pêche. Et donc, il souhaite aller plus au large. Alors, Thor parvient, à un moment donné, il nous est dit, à attraper un serpent qui entoure le monde. Il s'agit de Jormungandr.
Gylfaginning, dans l'Edda de Snorri Sturluson. Le serpent de Midgard ouvrit grand la gueule sur la tête de bœuf, et l'hameçon se planta dans son palais. Quand il sentit cela, le serpent réagit en faisant des mouvements si véhéments que les deux poings de Thor heurtèrent le plat-bord. Alors, Thor se mit en colère, s'arma de sa force d'ase et s'arc-bouta si fermement des deux pieds que ceux-ci passèrent aussitôt à travers le bateau. S'arc-boutant alors sur le fond de la mer, il tira le serpent jusqu'au plat-bord. Et l'on peut dire que nul ne sait ce qu'est un spectacle terrifiant qui n'a vu celui-ci. Thor foudroyait du regard le serpent, et en retour, ce dernier le fixait de bas en haut en crachant son venin. On rapporte ici que le géant Ymir changea de couleur, blêmit, et fut pris de frayeur quand il vit le serpent, et se rendit compte que la mer entrait et sortait à flot dans la barque. Au moment même où Thor saisissait son marteau et le brandissait bien haut, le géant s'empara à tâtons du couteau à appât et trancha d'un coup la ligne de Thor sur le plat-bord. Le serpent plongea alors dans la mer, mais Thor lança sur lui son marteau. Certains disent qu'il lui arracha la tête au milieu des flots, mais je crois au contraire que la vérité oblige à dire que le serpent vit encore et qu'il se trouve dans l'océan, situé tout autour des terres. Quant à Ymir, Thor lui asséna un coup de poing sur l'oreille, en sorte que le géant fut précipité par-dessus bord et que l'on put voir la plante de ses pieds. Puis, Thor regagna à pied le rivage.
Alors, Snorri, justement, nous parle de Midgardsormr, qui signifie « serpent de Midgard ». Donc, c'est le lieu où les humains habitent, un lieu qui est justement séparé par un océan, où vit ce serpent. Alors, toutefois, un autre terme qui est employé dans l'Edda poétique et poésie skaldi, c'est « Jormungandr », qui peut se traduire par « immense monstre ». Et donc, c'est une des progénitures de Loki, au même titre que le loup Fenrir, que l'on verra, mais aussi que, par exemple, Hel, royaume des morts, mais aussi, par exemple, de Sleipnir, qui est le cheval à huit pattes d'Odin. Et c'est le venin de ce serpent qui tuera Thor lors du Ragnarok.
Mais ça, c'est extraordinaire. Donc, les dieux meurent.
Oui, tout à fait. Ragnarok signifie destin, donc on a Rok, des Ragnas, c'est-à-dire des puissances organisatrices. Donc, on peut traduire par destin des dieux. Et c'est une variante de ce terme qu'emploie Wagner et qui va donner Götterdämmerung, qu'on peut traduire justement par crépuscule des dieux. Alors le terme destin est un peu plus approprié pour décrire ces événements et cette bataille.
Alors, si les dieux meurent, ça veut dire que ce n'est pas eux qui ont toute la puissance. Qu'est-ce qui est plus puissant que les dieux?
On a la figure des Nornes. Snorri nous les présente. Elles s'appellent Urður, Verðandi et Skuld. Ce sont des jeunes filles qui décident de la vie des enfants qui naissent. Il nous dit également qu'il y en a certaines qui viennent de la famille des elfes, d'autres de la famille des nains. Il précise qu'il y a des nornes qui sont bonnes, qui vont décider de bonne vie. Il y a d'autres nornes qui vont apporter le malheur, des mauvaises nornes en soi. Il y a d'ailleurs une inscription runique qui date du XIIe siècle sur une église à bois debout de Norvège. Il est gravé, Thorir a gravé ces runes la veille de la fête Saint-Olaf quand il passa par là. Les nornes ont à la fois fait du bien et du mal. Beaucoup de difficultés, elles ont créé pour moi.
En tant que romancière, je suis forcée de croire au destin. C'est un peu un vice professionnel. Alors évidemment, c'est me donner beaucoup de pouvoir, parce qu'en tant que romancière, je ne vais pas dire que je suis une norne, parce que j'ai conscience que j'irai beaucoup trop loin, mais disons que je suis une norne au tout petit pied, je suis celle qui décide du destin de mes personnages. C'est terrible d'avoir le pouvoir de création, mais aussi de destruction sur ses propres créatures. En est-il de même dans la vie? Ça, c'est une question qui me dépasse. Bon, bien sûr, je serais tentée par vice professionnel, je serais tentée de croire au destin. Tout le problème, à ce moment-là, consiste à connaître son destin. Bon, faut-il pour autant forcément aller voir une voyante? Je n'en suis pas sûre, encore que ça puisse être très amusant. Je crois que le destin, à échelle individuelle, dans la vraie vie, ça correspond à sa pente, à son désir, à ce que l'on sent en soi. Peut-être un petit peu à ce que Shakespeare appelait le « tragic flaw », qui n'est pas toujours tragique, puisqu'il existe aussi des dispositions qui sont extrêmement positives. Je pense que le destin, à échelle individuelle, consiste à s'écouter. Il s'agit de déterminer ce pourquoi on est fait. Pour ça, il faut une certaine lucidité. Donc, le destin appartiendrait aux gens lucides. Et à partir du moment où on a déterminé ce que serait sa pente, ce que serait son désir, là, il faut y aller à fond et devenir Nietzschéen. Mais uniquement à ce moment-là. Nietzschéen dans le sens de l'amor fati. Nietzsche disait qu'il fallait aimer son destin plus que tout, quel qu'il soit. Même s'il était extrêmement négatif, que toute la grandeur que nous pouvions avoir consistait à aimer son destin à travers toutes ses vicissitudes, je suis d'accord, mais à condition que dans un premier temps, on ait choisi son destin. Donc vous voyez, j'y vois un mélange de choix personnels et après d'amour de la vie, jusque dans ses côtés les plus immondes, dans ses côtés les plus désespérants. Par exemple, dans ma vie, je suis écrivain, j'ai choisi d'être écrivain. Maintenant, être écrivain m'amène parfois à vivre des choses terriblement difficile. Ne serait-ce que publier un livre, c'est accepter de se soumettre à des angoisses sans nom, c'est accepter d'être jugé par un éditeur, d'être jugé par des journalistes, de passer à la télévision. À ce moment-là, je me dis, non, là, Amélie, là, tu dois être Nietzsche, tu dois pratiquer la mort fati, c'est-à-dire que même si tu détestes de passer à la télévision, c'est quand même le prolongement de ce que tu as choisi, donc aime-le jusqu'au bout.
Yasculvilia. Leva la livets d'armedei. Ner groyag blivit, do haryag yivit. Alla minadar til dei minven.
Est-ce que nous pourrions revenir à la fin du monde? Que se passe-t-il à la fin du monde et après la fin du monde?
Pour cette bataille, pour ce Ragnarok, l'idée principale, c'est qu'on va avoir une opposition entre deux camps. Donc on retrouve notamment le serpent Jormungandr qui va affronter Thor. On a le loup Fenrir, une autre progéniture de Loki, qui aura sa mâchoire inférieure qui rasera la terre et la mâchoire supérieure qui touchera le ciel. Et il va engloutir Odin, qui va être vengé par la suite par son fils Vidar. Alors il y a également un incendie dévastateur causé par le géant Surt. Plusieurs êtres survivent toutefois à cette bataille. C'est le cas, nous indique Story, notamment du dieu Baldr, qui est le fils d'Odin, et aussi un autre dieu, Odur, qui vont revenir de Hel, donc ce royaume des morts. Alors il y aura également d'autres fils d'Odin, comme Visar et Vali, ainsi que les fils de Thor, Mosi et Magni. On a le soleil, avant de mourir, qui a donné naissance à une fille. Il y a également un couple d'êtres humains qui va survivre, qui s'étaient cachés, qui sont encore présents. Donc voilà, on a à nouveau un monde qui est présenté comme étant meilleur, comme étant lié à la bonté.
Si j'ai bien compris, et c'est une chose que j'aime beaucoup dans les mythologies nordiques, c'est que c'est une mythologie qui n'a pas peur de la mort. La mort est vue comme quelque chose de finalement assez positif, puisqu'elle permet une régénération Et voilà, même après la fin du monde, la vie existe toujours et la vie est meilleure, la vie est purifiée.
Tout à fait. Alors, il y a aussi un poème qui parle de ça où il dit « Ça ne sert à rien de sangloter, il vaut mieux justement agir, puisque mon âge a été déjà fixé par les normes et le cours de ma vie, autant vivre pleinement la vie. »
Oh, j'adore ça, vraiment, cette mythologie nordique a tout pour me plaire. Je vois la vie nordique comme quelque chose de très combatif, où il n'y a aucune place pour la mélancolie, la rêverie. La vie est dure, elle est tout le temps dure, mais elle est tonique. On est toujours du côté de la force, on est du côté de l'énergie. C'est pas des rêveurs, j'aime beaucoup tout ça. J'espère devenir viking dans une vie ultérieure.